Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission au fil des pages, j'ai le plaisir de recevoir Alain Prochian, neurobiologiste, morphogénéticien, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Donc un livre intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?» paru aux éditions du Seuil en 2012. Un ouvrage de réflexion à la fois scientifique et philosophique autour de l'instabilité de toute structure vivante. Car qu'il s'agisse du renouvellement cellulaire, de la plasticité du cerveau ou de l'évolution des espèces, rien n'est fixe. Qu'est-ce que le vivant et pourquoi pas qu'est-ce que la vie, Alain Prochian ?
Pourquoi qu'est-ce que le vivant ? Justement, parce que qu'est-ce que la vie, ça a déjà été fait. C'est le livre de Schrödinger, qui était un livre important, qui était important dans l'histoire, en fait, de la biologie, mais qui est un livre qui a une tendance, je dirais, physicaliste, c'est-à-dire qui pense que, in fine, la biologie peut être considérée comme une branche de la physique sur le plan théorique. Or, justement, ce que je veux défendre, c'est qu'il y a une indépendance de la biologie et qu'une théorie du vivant ne peut pas être une physique du vivant.
Il ne doit pas non plus être une théorie fixe, ne pas être fixiste.
Aucune théorie ne peut être fixe, sinon c'est une religion. Les théories évoluent. Un objet scientifique, ce n'est pas uniquement l'objet, le vivant par exemple. C'est l'objet avec la théorie qui l'entoure. Et donc, comme on peut espérer que les scientifiques travaillent et qu'ils font avancer le système, évidemment les théories évoluent. Des fois d'ailleurs, il y a des révolutions. Hein. Et donc, l'objet lui-même évolue. Le cerveau après Turing n'est pas le même que le cerveau avant Turing. Voilà.
Alors justement, vous parlez de Turing. Dans votre livre, vous faites référence aussi souvent à Darwin, à Claude Bernard. La référence aux anciens est très importante.
Je pense que la science est une conversation entre amis. Alors les amis peuvent être vivants, ils peuvent être morts, et on continue à converser avec eux. C'est ça la beauté de la science. Ce n'est pas la guerre de tous contre tous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on écoute les uns et les autres, moi compris d'ailleurs. Mais en fait, c'est quand même une conversation, et cette conversation, eh bien, on peut la tenir avec des anciens. Et puis Darwin et Claude Bernard ne sont pas de mauvais collègues avec qui converser, je crois.
Et justement, donc, parlons aussi des personnes à qui vous vous adressez. Vous n'avez pas forcément des mots très tendres, alors on va pouvoir en parler tout de suite. En préambule de votre essai, vous fustigez ceux qui n'ont pas véritablement réfléchi à cette question du vivant et ses évolutions permanentes. Alors, je vous cite, « Ceux qui encouragent à saccager les expériences sur les OGM, qui militent pour l'interdiction de l'expérimentation animale, donnent un parfait exemple du niveau d'extrémisme auquel inculture et fanatisme peuvent mener des individus. D'où la nécessité de s'expliquer sur le biologique, afin d'éclairer les débats, par exemple la séparation entre les humains et les autres animaux ou le développement des OGM. » Alors, Alain Prochian, à qui est destiné ce livre ?
Il est destiné à tous les démocrates, c'est-à-dire ce ne sont pas les scientifiques qui doivent décider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, bien entendu. Donc, il y a des lois dans un pays. Si les lois, on veut les changer, on les change, mais le législateur doit être, et les lecteurs, in fine, doit être bien au courant de tous les enjeux et de où on en est des connaissances. Donc je crois qu'il est important d'avoir une action qui un peu d'éducation, mais à un certain niveau. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire de la vulgarisation. Je suis très hostile à la vulgarisation. D'autres y sont meilleurs que moi. Mais ce que j'aime bien, c'est contextualiser les questions, expliquer d'où viennent ces questions et mettre les éléments à la disposition de tous ceux qui veulent bien les regarder avec objectivité. Moi, les militants et les fanatiques, ça ne m'intéresse pas.
On va reprendre la question de votre livre. Qu'est-ce que le vivant ? Le vivant est-il simplement de la matière bien ordonnée, Alain Prochian ?
Le vivant est de la matière, ça c'est sûr. Je suis matérialiste, hein. Je suis athée même, donc je préfère le dire d'emblée, comme ça les choses sont claires. Oui, c'est de la matière. Est-ce qu'il est bien ordonné ? Il est ordonné, bien entendu. D'un œuf de poule sort toujours une poule, donc il y a quand même quelque chose qui se conserve dans l'affaire. Mais en même temps qu'il est bien ordonné, il y a aussi du désordre. C'est-à-dire, rien ne se fait sans un minimum de désordre. Donc ce désordre, on peut le décliner sous différents aspects. Moi, je l'ai décliné sous l'aspect de l'instabilité du vivant. Donc je ne dirais pas que c'est du désordre, d'ailleurs. Vous voyez, dès qu'on parle d'ordre et de désordre, on fait une référence, d'une certaine façon, à la thermodynamique, donc à une théorie de l'information.
À des lois, en fait.
À des lois physiques. Ce que j'essaye de dégager, et comme réflexion, c'est qu'est-ce que serait une théorie du vivant qui serait spécifique du vivant ? Ce qui ne veut pas dire que le vivant, étant matériel, ne relève pas aussi de la physique et de la chimie. Mais le vivant, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se reproduit, c'est quelque chose qui évolue. Et donc, il faut des concepts particuliers pour penser ces choses-là. Et ça fait aussi partie d'une théorie du vivant. Je ne crois pas que les théories de l'ordre ou du désordre, en tant qu'elles sont purement thermodynamiques, thermodynamiciennes si vous préférez, soient rejetées, mais elles ne subsument pas tout ce qui relève d'une théorie du vivant. Il y a des choses en plus chez nous.
Alors nous sommes à la fois semblables et différents, donc il y a la forme générale de l'espèce qui s'appelle l'imago, et puis après eh bien, des aspects différents sur le plan développemental. Il y a un caractère donc, qu'on appelle l'individuation et qui est très fort chez l'être humain. Pourquoi est-il moins fort dans les autres espèces ?
Alors d'abord l'imago, donc, je disais tout à l'heure d'un œuf de poule sort toujours une poule, d'un œuf de sapiens sort toujours un sapiens, c'est normal. Mais ça reste quelque chose de relativement limité, c'est-à-dire que Fred, c'est pas Mohamed, parce qu'ils ont des histoires différentes, à la fois des histoires génétiques, il y a des modifications, il y a des changements, il y a des différences génétiques entre les individus au départ déjà. Bon, je sais pas, vous êtes une femme, je suis un homme, vous avez les yeux bleus, j'ai les yeux marrons, je suis frisé, même ça se voit pas, et vous avez les cheveux plats. Donc ça, ce sont des différences génétiques, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a d'autres différences probablement plus intéressantes que celle-là. Et puis, il y a tout ce qui, au long de la vie, se modifie dans la structure physique de l'individu, en particulier dans son cerveau, et qui une forme d'inscription de l'histoire individuelle, ce que j'appelle l'individuation, et qui est irréversible d'une façon. C'est-à-dire que l'individu évolue en permanence, en fonction de ce qu'il traverse. Donc oui, sur cette instabilité se construit l'individuation. Alors pourquoi sapiens plus que les autres ? Parce que ça a à voir avec la relation avec le milieu. Alors quand on a un cortex de 1500, 1400, voire 1300, ça dépend des individus, centimètres cubes, eh bien on a des interactions avec le milieu, en particulier pas n'importe où ces centimètres cubes, hein, dans le cortex frontal, dans des régions qui sont liées à la cognition. Nos interactions avec le milieu sont énormément plus grandes que celles d'un singe de base, hein. Tapez Google, voilà quoi. Donc, et ça, ça fait que l'interface entre l'individu et le milieu est énorme. Elle est quasiment infinie, elle est, la masse d'informations, de relations qu'on peut avoir est forte. Et cela influe évidemment sur la construction du cerveau tout au long de la vie, bien entendu.
Alors parlons du cerveau justement. Donc vous parlez d'une évolution permanente, mais une évolution qui a quand même une certaine limite. La plasticité du cerveau, elle a une plasticité, mais jusqu'à une certaine limite. Sinon, les informations que nous pourrions emmagasiner seraient constamment effacées pour pouvoir laisser place à d'autres informations. Donc à un moment donné, ce système a des limites chez l'être humain qui, d'ailleurs, n'a pas forcément de limites pour d'autres espèces.
Oui, je voulais dire que ça régénère moins bien chez nous. Ça, c'est une des limites, c'est celle-là. C'est-à-dire que si vous coupez un morceau de cerveau chez un poisson, ça repousse. Si vous coupez même une patte, hein, il n'y a pas besoin de cerveau, mais vous coupez un morceau de patte chez une salamandre,
c'est le plus connu,
ça hydre. Repousse. Les hydres, vous les coupez en deux, les planaires en quatre, ça fait quatre planaires. Bon. Si vous coupez un humain en deux, ça ne repousse pas, et si vous retirez un morceau de cerveau, ce n'est pas bon. Donc, il y a des propriétés de plasticité qui existaient chez nos cousins un peu lointains que nous avons perdues, mais que les mammifères ont perdues d'une façon générale. Alors, on a perdu ça, qu'est-ce qu'on a gagné en échange ? Alors, c'est une hypothèse, hein. Je pense que ce qu'on a gagné en échange, c'est une forme de permanence, c'est-à-dire l'individu est plus individu quand il est un mammifère, et au plus haut niveau individu quand il est un sapiens, que quand il est une salamandre ou un poulet. Voilà, donc, alors évidemment, il y a un gain, hein, j'ai de la mémoire en particulier, je sais où j'ai garé ma voiture tout à l'heure, même si j'ai pas de voiture, c'est pas grave, enfin bon, je sais quel bus j'ai pris, je sais le chemin que je prenne pour rentrer chez moi, je sais qui sont mes parents, enfin, j'ai de la mémoire, mon enfance, etc. Donc, il y a un gain, bien entendu, et puis je me souviens un tout petit peu de ce que je fais au laboratoire, c'est quand même ce qui est le plus important. Mais en même temps, évidemment, ça se paye, c'est-à-dire que si vous avez un AVC, ou si vous vous coupez un nerf ou vous avez un accident de la route, ben, ça repousse mal. Voilà, disons ça comme ça, ça repousse mal. Mais ceux chez qui ça repousse bien, c'est intéressant de les étudier parce que ça peut faire comprendre des stratégies qui permettraient justement de faire repousser aussi chez nous. Voilà, donc ce sont des modèles qui sont intéressants. Si les salamandres peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Voilà.
Mais ce qui est curieux, c'est de savoir pourquoi nous, qui nous estimons quand même plus évolués que les salamandres, pourquoi nous avons perdu cette capacité.
C'est probablement qu'il y a un gain évolutif énorme à développer une culture, tout simplement.
Ce qui produirait une certaine immortalité, une immortalité relative, comme vous l'écrivez dans votre ouvrage.
Au niveau de l'individu, il va falloir faire des progrès. Mais c'est vrai que chaque génération démarre plus ou moins de l'endroit où la précédente l'a laissé, à cause justement des artefacts culturels. Ça, c'est extraordinaire quand même, quand vous regardez des enfants aujourd'hui ou des adolescents, ils ont assimilé l'objet informatique comme si c'était déjà quelque chose qui est un prolongement de leur corps. Alors que pour nous, ça a été un effort, même si petit à petit, ça s'incorpore, si j'ose dire, très littéralement en fait. Eh bien, chaque génération démarre de là où l'autre a laissé, alors que chez les singes, ils en sont encore à la brindille à termites.
Vous avez un chapitre consacré à l'embryogenèse.
Encore les meilleurs des singes.
Vous avez un chapitre consacré à l'embryogenèse silencieuse en référence au physiologiste Claude Bernard. Et je sais que vous vous revendiquez des idées de Claude Bernard. Claude Bernard qui d'ailleurs, entre parenthèses, était aussi à l'Académie des sciences et à l'Académie française et au Collège de France.
Et au Muséum d'histoire naturelle.
Je crois qu'il était à peu près partout. Donc, l'idée est la suivante, c'est que tout se renouvelle régulièrement, les cellules de notre peau, les cellules du sang, pour ne citer que celles-ci. Pour Claude Bernard, le vivant se détruit, se reconstruit à chaque instant dans un équilibre qui est celui de la physiologie. C'est ce que vous écrivez.
Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il rompt avec une vision physiciste, qui serait celle de Lavoisier, pour la chimie, ou celle de Bichat, de certaine façon, où on atteindrait un état de perfection, et puis ça se dégraderait parce que l'entropie monte, le désordre, justement, dont on parlait tout à l'heure. Alors Claude Bernard renverse ces choses, il dit « à chaque instant, le vivant se construit et se détruit ». C'est une vision extraordinairement contemporaine. Donc aujourd'hui, quand on regarde les affaires avec les cellules souches, par exemple, hein, et la médecine régénérative, on se rend compte que c'est une vision incroyablement contemporaine que de dire qu'à chaque instant, ça meurt, qu'à chaque instant, ça répare, ça crée. Et c'est une rupture avec une conception de la biologie comme une branche de la physique. C'est pour ça que j'appelais ça « qu'est-ce que le vivant et pas qu'est-ce que la vie », pour revenir au début.
Et donc cette conception que Claude Bernard avait, il l'avait au XIXe siècle, on l'a abandonnée et maintenant on la retrouve.
On l'a abandonnée, mais c'est normal, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les anciens. En même temps, on a fait d'énormes progrès quand on a adopté un point de vue plus physicaliste, un point de vue qui est en fait un point de vue qui dérive de la théorie de l'information, donc du deuxième principe de la thermodynamique. Alors on a vu le génome comme une force qui maintient l'ordre, on a amené les concepts de régulation. Donc on a fait énormément de choses qui ont fait faire des progrès énormes à la biologie. C'est-à-dire que toute cette période a été incroyable quand même, toute cette période de la biologie moléculaire, de la génétique. Mais en même temps, on a un peu oublié d'autres choses. Et aujourd'hui, on voit la biologie du développement, cette conception beaucoup plus plastique, je dirais, moins anthropique du vivant, reprendre le dessus. Ça ne veut pas dire que le reste est inintéressant, hein. Faut se méfier de dire ceci c'est bien, ceci c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette tradition bernardienne qui voit la physiologie comme une embryogenèse silencieuse. C'est-à-dire que, et c'est intéressant aussi du point de vue des pathologies, parce que ce que disait aussi Claude Bernard, il l'a décrit et ça a été publié plus tard en 1948 dans les Principes de médecine expérimentale, qui est un livre qui a été publié bien après sa mort, puisqu'il est mort en 1878. Eh bien, s'il n'y a pas une physiologie pour la santé, une physiologie pour la maladie. Les pathologies, ce sont des physiologies qui déraillent. Hein. C'est quand même qu'il n'y a pas une loi des physiques pour monter les ponts et une loi des physiques pour les écrouler. Donc, voir cet équilibre du vivant, c'est avoir une meilleure approche sur qu'est-ce qu'une pathologie. Est-ce qu'une pathologie, ce n'est pas justement l'introduction d'un déséquilibre dans ce rapport entre je crée et je meurs. Et c'est là que toutes les questions de réparation, de cellules souches, de cancer, tout ça peut être vu sous cet aspect. Et je crois que c'est très très riche, très très riche à redécouvrir.
Alors vous parlez de pathologie, justement dans votre livre, vous faites référence en filigrane à une pathologie qui est un peu une pathologie fourre-tout d'ailleurs, hein, qui est donc une pathologie psychiatrique, la schizophrénie. Aujourd'hui, je ne sais pas si on parle encore même d'ailleurs de schizophrénie. En quoi, justement, la schizophrénie peut-elle intervenir justement dans ces questions d'individuation, de qu'est-ce que le vivant ? Quel est le lien avec ces...
Il faut se méfier parce que la schizophrénie, si vous voulez, c'est un terme ombrelle qui abrite beaucoup de choses différentes, probablement. Alors, il y a plusieurs... on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut être honnête, les gens ne savent pas ce que c'est. Moi non plus, d'ailleurs. Hein. Cette année, l'année dernière, j'ai fait le cours au Collège de France sur en quoi une approche évolutive et développementale pourrait nous donner des pistes pour comprendre ces pathologies qui sont d'abord des pathologies de la cognition. Donc, pourquoi l'évolution ? Parce que, si on veut bien admettre qu'on n'est pas des singes, pas des souris... Il y a peut-être des maladies qui sont plus fortement représentées chez Sapiens. Donc, en comparant les génomes de Sapiens et les génomes des singes, est-ce que ça peut donner des pistes sur des gènes qui seraient plus largement impliqués dans ces maladies ? Donc, je pense que oui, d'ailleurs, ça oriente vers évidemment les maladies de la synapse, mais aussi vers les maladies du métabolisme. Donc, ça, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Et puis, par ailleurs, le développement, parce qu'il y a beaucoup de psychiatres aujourd'hui qui pensent que ces maladies de la cognition sont des maladies du développement, et en particulier peut-être des maladies de ce qu'on appelle la période critique. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, je veux bien le dire tout de suite, et je m'intéresse à ça d'un point de vue un tout petit peu intellectuel et théorique, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des périodes critiques au cours du développement du cerveau, et si on les rate, ce n'est pas bon. Vous savez, les étudiants, ils pensent qu'on est intelligent jusqu'à 17 ans, et puis qu'après on devient bête. En fait, ce n'est pas du tout vrai. On est bête jusqu'à une certaine période, on est intelligent pendant une petite période, on redevient bête après, en gros, un truc
comme
ça.
On est rassuré.
Hein. Voilà. Et cette période, évidemment, ce n'est pas comme ça, ça dure beaucoup plus longtemps, et justement, c'est intéressant de voir à quel point Sapiens peut continuer à apprendre. Mais il y a des périodes où on apprend mieux que d'autres. Hein. Et ça, ce sont des périodes qu'on dit critiques, qui correspondent à une phase très précise de maturation du cortex, la maturation en fait des interneurones inhibiteurs, mais ça c'est trop compliqué pour raconter ça. Mais il reste qu'il y a une période critique dans le développement humain qui est importante, c'est le moment de la puberté. Hein, le monde change quand même. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais même moi je m'en souviens. Donc on ne regarde plus les gens de la même façon, ils ne vous regardent plus de la même façon, vous ne regardez plus de la même façon. Donc il faut que le cerveau suive. Donc il y a une théorie qui dit qu'il y a là quelque chose qui se passe dans le cerveau humain et ça se passe mal. Alors peut-être pour des raisons qui étaient là avant.
Hein, mais qui sont révélées au moment de la puberté.
Et qui se révèlent massivement à ce moment-là.
Comme pour les psychoses, par exemple, les psychotiques sont
révélées. C'est quand même dans ces périodes-là,
entre
18, je dirais, et 22 ans, que ce qu'on appelle les symptômes positifs, hein, les hallucinations, les délires apparaissent. Donc, de nouveau, je voudrais être très prudent, je ne suis pas médecin, et je regarde ça justement d'un œil un peu extérieur, mais de l'œil de quelqu'un qui s'intéresse énormément, dans son laboratoire, au développement et à l'évolution du cerveau, oui.
Dernière question, donc, vous écrivez que Sapiens est un animal tragique qui a conscience de sa finitude. C'est donc la différence entre Sapiens et puis les autres espèces ?
Bon, il y a beaucoup de différences entre Sapiens et les autres espèces parce que vous savez déjà, la taille d'un cerveau chez les primates est proportionnelle à la taille du corps. Parce qu'un cerveau, ça sert à bouger essentiellement, à sentir et à bouger. Et si nous en étions là, vu la taille de notre corps, on devrait avoir un cerveau d'environ 500 cm3. Donc on a 900 cm3 en plus. Et 900 cm3 qui sont mis de trop, hein, je dis, qui sont mis dans des régions qui sont des régions cognitives, essentiellement linguistiques, cognitives. Parce qu'on a aussi perdu du côté de la vision, de l'olfaction. Donc en fait, on a vraiment un cerveau qui est bizarre pour des primates. Et bon, ben, c'est 900 cm de trop, ils font les poètes, ils font les suicidés, ils font les artistes, ils font les gens de radio. Et ça, évidemment, font aussi que, on sait que tout un début, un milieu, une fin, les espèces, mais aussi les individus. Et donc, évidemment, ça introduit le tragique. Voilà, ouais.
Une des différences entre Sapiens et le chimpanzé, c'est par exemple la créativité scientifique, artistique. Encore que les chimpanzés ont peut-être aussi une inventivité.
Non, mais il ne faut pas mépriser les chimpanzés. Ce sont des cousins qui sont éloignés de nous de plus de 7 millions d'années. Hein. 7 millions pour revenir au point de branchement et 7 millions pour descendre de l'autre côté. Ils ont évolué aussi pour leur propre compte. Donc, la distance est assez grande. Mais 14 millions, vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Hein. 3 milliards, Mais quand même, ça suffit pour... Puis la vitesse d'évolution n'est pas proportionnelle à la durée non plus. Hein, ça peut évoluer plus ou moins vite. Donc oui, on est loin des chimpanzés, mais nous sommes des primates comme les chimpanzés. Il reste que, quand je regarde par la fenêtre et que je vois le Louvre, bon, je me dis, c'est pas mal d'être humain finalement.
Bien, merci Monsieur Prochian. C'est sur cette phrase que nous allons terminer cette émission. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, « Qu'est-ce que le vivant ?» paru aux éditions du Seuil en octobre 2012. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous. Thank you.